Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, appel sur actualité, RFI vous donne la parole, nous débattons ensemble des thèmes d'actualité qui vous sont chers, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Aujourd'hui, la délinquance juvénile, le phénomène des bandes de jeunes gens violents, souvent armés et parfois même drogués est bien connu dans certaines capitales ou grandes villes africaines. On a les Koulouna par exemple à Kinshasa, les microbes à Abidjan, la Côte d'Ivoire touchée ces derniers mois par les violences de ces gangs qui agressent de plus en plus de personnes. Alors comment vivez-vous ce phénomène de délinquance juvénile dans votre pays? Que font les autorités? Quelles mesures sont prises en termes de répression, en termes de réinsertion? Quelles solutions selon vous? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 ou 09 693 693 70 si vous appelez de France. Une première réaction en compagnie de Jean-Christian à Abidjan. Bonjour Jean-Christian.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes donc en Côte d'Ivoire et vous nous parlez de délinquance juvénile, un phénomène donc qui monte ces derniers mois notamment. Quelle est l'origine de ce problème selon vous?
Bon, je salue d'abord toute la brave population ivoirienne. Et ensuite, il faut dire qu'effectivement en Côte d'Ivoire, le phénomène gagne de plus en plus de l'ampleur. Cela est dû au fait que les jeunes aujourd'hui sont pratiquement laissés pour compte. Alors il faut bien qu'ils gagnent leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai qu'ils n'ont pas choisi la bonne voie, mais quelque part, ils n'ont pas le choix. Des gens qui ont fait des grandes écoles, qui sont des diplômés, qui n'ont pas d'emploi, il faut dire qu'ils sont bien obligés d'employer tous les moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ensuite, la deuxième cause, c'est ce groupe d'ex-combattants à qui on a promis mons et merveilles, qui aujourd'hui malheureusement se retrouve devant la triste réalité. Alors des gens qui étaient habitués à terroriser, à gagner leur vie avec des armes, aujourd'hui on leur dit bon, déposer les armes, vous aurez des emplois, ça ne n'ont rien. Alors très souvent, la deuxième arme qu'ils ont dû cacher quelque part va bien servir pour brigander les populations. Concernant le phénomène des microbes, il faut bien dire que c'est une bande tout à fait organisée, même trop bien organisée pour penser que ces enfants sont les seuls à pouvoir agir. Ils sont certainement encadrés par des personnes plus âgées. Alors voici en quelques mots les trois causes qu'on peut définir.
C'est vrai que les microbes, ces gangs de jeunes, c'est un nom qui vient en fait des favelas du film brésilien La Cité de Dieu. Et c'est des jeunes gens vraiment très jeunes, entre 10 et 20 ans, armés généralement d'armes blanches, que ce soit des machettes ou des couteaux, et en fait qui bloquent les routes, font des barrages improvisés et dévalisent en fait tous ceux qui passent. Quelle solution selon vous? Parce qu'il y a eu des opérations de police, notamment pour arrêter ces jeunes.
Oh, on attend beaucoup plus que ça, des opérations de grande ampleur. Il n'y en a pas eu du tout en Côte d'Ivoire. C'est juste quelques opérations. Au passage, on prend quelques menus frétins et puis bon, on présente à la télévision. Sinon, réellement, on nous a fait comprendre qu'on a pris quatre responsables sur combien? Alors la moisson est vraiment maigre. Je pense qu'il faut amplifier les patrouilles. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Les hommes politiques, chacun a pratiquement 3, 4, 5, souvent 10 gars de corps. Mais nous, la population, on fait comment? Il faut accentuer les patrouilles. Et puis, je pense même que c'est à eux de réfléchir pour pouvoir trouver la solution au problème. C'est leur travail que de trouver des solutions au problème de sécurité des Ivoiriens. Alors qu'ils le fassent tranquillement. On ne va pas demander aux médecins de demander à la population de lui montrer quel moyen faire pour soigner un malade. C'est à lui de penser pour trouver. Alors je pense que c'est aux politiques de penser pour trouver les mesures adéquates à mettre en œuvre pour pouvoir parer à cette situation.
Merci beaucoup Jean-Christophe de ce témoignage depuis Abidjan. Nous sommes toujours avec la Côte d'Ivoire en ligne en compagnie de Mamadou. Bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Vous aviez, vous, une réaction notamment sur ces enfants, ces microbes, comme on les appelle, qui sont selon vous plutôt des victimes avant tout, hein?
Oui, moi je les trouve plutôt comme étant des victimes. Je m'inscris un tout petit peu dans la même veine que mon compatriote qui a précédé. Mais cependant, en plus des causes qu'il a évoquées, il ne faut pas omettre une cause essentielle qui semble être la déscolarisation précoce des enfants également. C'est-à-dire, ici en Côte d'Ivoire, des enfants peuvent être exclus de l'établissement à partir de la classe de CM2 parce qu'ils n'ont pas eu l'examen d'entrée en 6e. Pour insuffisance de moyenne, en 5e, en 6e, à 12 ans, 13 ans, ils sont renvoyés, ils sont dans les rues. Ça, il ne faut pas effectivement oublier cet aspect. Mais cependant, l'une des causes fondamentales me semble être que des enfants, une des causes fondamentales semble être que ces enfants de la rue qui existent là, le recrutement s'est fait dans cette base des enfants de la rue qui existent déjà, qui sont issus des dislocations de la famille pour des causes de pauvreté généralisée que nous connaissons tous. Il y a effectivement également le problème des milices qui ont recruté massivement parmi les bandes des jeunes et puis ils sont effectivement des laissés pour compte.
Vous aviez parlé de déscolarisation. Dans certains pays où l'école est obligatoire, il y a notamment un contrôle de l'obligation scolaire, c'est-à-dire les forces de l'ordre ont le droit de récupérer les enfants dans les rues et de les forcer à retourner à l'école. Est-ce que ça pourrait être une option selon vous ?
Très bien, ça peut être une option, mais ça c'est loin de notre réalité ici. Les enfants sont plutôt chassés des écoles pour insuffisance de moyens, voire par pauvreté. Donc effectivement, ça peut être une des causes. Voilà un peu ce qui me semble être les causes fondamentales. C'est vrai.
En Côte d'Ivoire, on a notamment des gens excédés dans certains quartiers qui se sont organisés en groupes d'autodéfense. On a eu plusieurs microbes tués en février dernier, notamment à Abobo. Cette justice populaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, justement, moi je suis foncièrement contre cette justice populaire parce que là, il s'agit là de tuer des victimes plutôt que de chercher des coupables et les punir. Donc les victimes, là, les enfants sont des victimes. Je vous dis qu'ils sont entre 10 et 16 ans au maximum. Les plus âgés, on voit 18 ans. Mon compatriote avant a dit qu'ils sont encadrés. Là, c'est très vrai. Ils sont véritablement encadrés. Par qui sont-ils encadrés? Ils sont encadrés par, aujourd'hui, il faut le reconnaître, par des ex-combattants plus âgés qui, eux, pour un mauvais processus DDR qui est peut-être mal mené ou bien pas abouti, se trouvent eux-mêmes livrés à eux-mêmes, sans aucune source. Donc, ils ont trouvé un vivier en ces enfants-là,
donc,
en les organisant.
On est là dans les conséquences encore de la crise post-électorale de 2011. Et selon vous, arrêtons d'abord les cerveaux, les meneurs, et réinsérons ces plus jeunes. Merci beaucoup, Mamadou, en ligne depuis Abidjan. 33 9 693 693 70. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, également touchée par le phénomène de délinquance juvénile avec ce qu'on appelle les Kuluna, qui sont particulièrement violents. D'ailleurs, vous-même avez été victime à plusieurs reprises de ces bandes.
Ah oui, ce phénomène sévit bel et bien chez nous. Et moi-même, j'en ai été victime deux fois. Une fois au marché, et ils m'ont pris mon téléphone. Et ils ont un système qui est un coup bien organisé. Et celui-ci, il prend, il peut passer à un autre et les autres prennent. Et paraît-il même que les policiers, ils sont dans les jets, puisque tant ces enfants sont arrêtés et ils sont vite relâchés. Nous ne comprenons pas pourquoi, si c'est puisqu'ils sont mineurs ou c'est pour une autre raison. Et aussi, un autre jour, c'était en pleine rue, je marchais. Et ils m'ont ravi le téléphone en pleine communication, un groupe de 5 à 6 personnes. Et lorsqu'ils m'ont pris, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et ils ne pouvaient pas réagir puisqu'ils craignaient encore les représailles, puisque ces groupes, quand vous essayez de faire échouer leur opération, ils se vengent contre vous. Donc,
Jean-Pierre, il y a eu au Congo plusieurs opérations de répression, notamment en novembre 2013, opération Likofi, lancée par les forces de sécurité. Ça a duré 3 mois. Fin février 2014, Likofi Plus, même toujours contre les Kuluna. Est-ce que ces opérations de lutte anti-délinquance, cet appareil répressif, vous semble une solution?
Non, moi je ne pense même pas que ce sont des opérations bien réfléchies, puisque on cherche à soigner les conséquences au lieu à chercher à soigner les causes. On cherche à arrêter les jeunes. On en a même appris qu'il y avait des ceux qui étaient tués, et on a même appris des ceux qui étaient arrêtés et mis en prison, et on les a déplacés dans des autres villes, et dans ces villes où on les a déplacés, ils ont encore créé des problèmes. Donc, les problèmes, on devait les traiter à partir des causes.
À l'origine, alors qu'est-ce qu'il faut traiter, notamment à la racine?
Oui. Si nous cherchons à savoir d'où viennent ces problèmes, ça a commencé avec les Chegui, enfants de la rue, pour arriver au Kuluna, ces enfants de la rue qui étaient au début, on peut dire, timides, mais au fur et à mesure, ils commencent à devenir agressifs, vu qu'ils voient que leur situation ne s'améliore pas. Avec la fermeture de plusieurs entreprises, nous avions eu des parents qui n'avaient plus d'emploi et les phénomènes de scolarisation. Donc, les enfants qui n'allaient plus à l'école, vu que les parents devaient payer pour les frais d'études, c'est là, on fait en sorte qu'on a eu des enfants qui n'ont pas étudié, donc qui n'ont pas été socialisés. Et ça a créé des problèmes. Et l'État, en ces temps-là, devait voir les conséquences déjà qui pouvaient arriver en ces problèmes.
Alors, restez en ligne, Jean-Pierre. Kinshasa est avec nous en compagnie de Beauvillé, votre compatriote. Bonjour, Beauvillé.
Bonjour.
Vous êtes d'accord avec votre compatriote Jean-Pierre sur cette origine des problèmes des Koulouna, notamment un problème familial des parents qui perdent leurs emplois et puis une déscolarisation progressive de ces enfants?
Je suis parfaitement d'accord avec lui, parce que je pense que l'origine, c'est pratiquement la désintégration sociale de la famille. La famille a été complètement désintégrée. Vous remarquerez, ces enfants sont pratiquement des enfants de pauvres, de fonctionnaires de l'État, des militaires qui perçoivent un salaire modique. Comment est-ce qu'une famille peut s'organiser avec un salaire de moins de 100 dollars? Avec un salaire de moins de 100 dollars, je pense qu'on ne peut pas s'organiser. Donc, comme a dit mon ami de la Côte d'Ivoire lorsqu'il parlait de victimes du système, moi, je dirais même le Koulouna sont le produit du système. Le produit du système, c'est le produit de la négation de la société qui a produit le Koulouna. Parce que lorsque vous n'avez pas une famille organisée, une famille complètement désintégrée, vous ne pouvez pas avoir un bon produit. Vous avez parlé tantôt de l'opération Likofi. Oui, l'opération Likofi, mais malheureusement, l'opération Likofi est une atteinte aux droits de l'homme. Moi, je pense, parce que vous avez parlé de solutions, pourquoi ne pas créer, par exemple, des services nationaux, comme l'a fait à l'époque le président, le feu musée Kabila, dans le domaine de l'agriculture. On peut prendre ces enfants, on peut les insérer, on peut leur donner des tâches, parce que les enfants n'ont pas du travail.
Alors, Beauvillé, justement, à propos de cette réinsertion et donner du travail, une activité à ces enfants, il y a eu une initiative du gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, qui date de 2010, qui consiste à réinsérer les Koulouna qui renonceraient à la délinquance et de leur donner une formation payée par la province à l'Institut National de Préparation Professionnelle.
Mais en fait, nous avons besoin du concret, parce que le concret, là, mon ami sera d'accord avec moi, mon ami de Kinshasa, le concret, on ne le voit pas, on ne le voit pas du tout. Ça, c'est pour peut-être faire la publicité que le gouvernement sont en train de faire quelque chose pour éradiquer la situation. Nous avons eu l'opération Likofi aujourd'hui, la situation est pratiquement au point de départ. Donc le problème, c'est qu'il faut élaborer des bonnes politiques et puis une volonté politique. En mettant réellement, comme le gouverneur a essayé de le dire, mais dans le concret, en mettant de service pour occuper ces enfants. Et je pense que la meilleure façon de désintéresser ces enfants à ces activités, c'est de les occuper réellement, pas en termes de publicité pour que le monde sache qu'on s'occupe de ce problème, mais en les intégrant réellement.
Les occuper, les intégrer, les faire travailler, les former. Merci beaucoup, Beauvillé, de nous avoir donné votre témoignage depuis Kinshasa. 339-693-693-70. Nous sommes en ligne cette fois avec Bamako Issoufou, qui nous écoute au Mali. Bonjour, Issoufou.
Bonjour à toute l'équipe de RFI. Merci pour ces thèmes aussi pertinents. Et moi, je pense que le phénomène est général dans pratiquement toutes les capitales régionales, ici à Bamako. Et c'est surtout, moi, je pense que l'une des causes fondamentales à Bamako, ce que nous avons vu, c'est généralement aussi les militaires radiés de l'armée. Ils deviennent des véritables dangers pour la nature. Et à Kalabankoro, nous avons vu des militaires radiés qui sont attaqués à des gens chaque jour. Et une fois, ils étaient amenés par la population à la gendarmerie, qui les a libérés par la suite, et la suite c'était quoi? C'était la justice populaire, un a été brûlé vif. Donc je pense que le phénomène, quelqu'un a parlé d'amplifier les patrouilles, effectivement, généralement, au niveau de Bamako, généralement, même si vous amplifiez les patrouilles, il se trouve que parmi les forces de l'ordre, il y a des gens qui vont informer ces groupes-là pour pouvoir prendre des dispositions et ne pas sortir ces jours-là.
Donc, alors effectivement, la répression, augmenter les patrouilles, les moyens des forces de l'ordre, c'est un argument qui revient souvent. On le voit même sur Facebook dans vos messages. Mebara qui nous dit « Je pense qu'il faut une réponse énergique des autorités. Je pense, Issoufou, que tout le monde n'est pas d'accord avec cette méthode, notamment peut-être Adiaratou qui est également à Bamako. Bonjour Adiaratou. »
Bonjour.
Que pensez-vous de ces solutions-là où il faut redonner des moyens aux forces de l'ordre et neutraliser ces bandes?
Vous savez, il faut que l'État malien commence à adopter des politiques adéquates pour la lutte contre les enfants de la rue. Actuellement, Bamako a 6 000 enfants de la rue.
C'est vrai que c'est le chiffre officiel, oui.
Oui, l'État n'a pas adopté de politique officielle pour éradiquer ce fléau. Ce sont des gens qui sont dans un engrenage pas possible. Ils sont tous issus de milieux très, très défavorisés. Les parents n'ont pas les moyens de subvenir ni à leur éducation, ni pour les nourrir. Donc, ils sont obligés d'aller dans la rue chercher de l'argent. Et vraiment, étant victime de l'injustice sociale qui demeure dans ce pays, ils s'adonnent au banditisme, à la délinquance juvénile et finissent par devenir de très grands bandits, comme ça a été le cas dans plusieurs capitales africaines.
Alors que faire, Adiaratou ?
Il faut que l'État malien crée des centres de réinsertion, d'accueil et de formation pour ces jeunes de la rue. Que ceux aussi qui sont donnés à des maîtres coraniques pour les former dans la lecture du Coran et qui les transforment en mangeant dans la rue, et que l'État donne que l'État finance ces centres de formation coranique pour qu'ils deviennent des centres formels et qu'ils soient reconnus par le ministère de l'Éducation malienne. Je pense que ça, c'est l'une des deux solutions.
Alors, c'est vrai que le Haut Conseil islamique malien a proposé de transformer les écoles coraniques en écoles communautaires, avec notamment un droit de regard des agents communaux sur ces écoles religieuses. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée?
Moi, je pense que c'est l'une des meilleures idées qu'on puisse faire pour éradiquer ce fléau. Les maîtres coraniques, ils sont pauvres. Un maître coranique qui ne parvient même pas à nourrir sa famille peut avoir souvent plus d'une centaine d'enfants qu'il doit nourrir et former. N'ayant pas les moyens, souvent, ils se voient en train de les envoyer dans la rue pour chercher de l'argent. Souvent, en leur imposant un dû qu'ils doivent amener quotidiennement. Et c'est par manque de ces dû qu'ils s'adonnent à des vols dans nos marchés et dans les autogares pour pouvoir amener de l'argent aux maîtres coraniques.
Alors, le cas du maître coranique est intéressant, effectivement, parce que le HCS propose également de rémunérer ses maîtres pour qu'ils s'occupent mieux des enfants et arrêtent de leur demander de mendier. Est-ce que c'est une bonne idée, ça aussi?
Oui, c'est une bonne idée. Si le Haut Conseil islamique du Mali essaie de répertorier, c'est-à-dire enregistrer la totalité des maîtres coraniques qui se trouvent ici à Bamako. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont des maîtres coraniques, en fait, ils n'apprennent rien à nos enfants. L'apprentissage du Coran est inclus dans la culture malienne à cause de l'islam. Donc le Haut Conseil islamique doit se donner la peine de répertorier réellement ceux qui sont des maîtres coraniques, de leur donner des formations et de les payer si possible.
Alors le cas des talibés est intéressant, se retrouve dans beaucoup de capitales. Abbas, vous êtes à Nouakchott, c'est un problème que vous rencontrez dans la capitale mauritanienne également?
Le problème est très fréquent. Évidemment, à Nouakchott, comme l'ont dit certains, c'est un phénomène qui revient le plus souvent. Les enfants qui sont pour la plupart issus de milieux défavorisés et les parents les donnent à la merci des maîtres coraniques. Alors ces maîtres coraniques qui n'ont pas les moyens de s'occuper de ces enfants leur laissent dans la rue le plus souvent pour aller mendier. D'autres enfants aussi qui sont issus d'autres milieux encore défavorisés profitent de cette situation, s'improvise un enfant talibé et voilà, ils profitent de la situation pour pratiquer l'agression et consommation.
Est-ce que la solution passe par le travail, là aussi, selon vous?
La solution, pour moi, est impérative, doit passer par le travail. L'État doit s'impliquer et les organisations et les associations doivent s'impliquer pour aider à l'insertion de ces enfants par la formation professionnelle et tout ce qui s'ensuit.
Mais est-ce que l'État mauritanien a les moyens de créer ces centres de formation, de trouver du boulot pour tout le monde?
Ben oui, quand on s'improvise en président des pauvres, on ne doit pas rester qu'un simple slogan, ça doit aller jusqu'au fin fond, aider ses enfants à quitter cet État vraiment défavorisé, n'est-ce pas, à travers les formations professionnel qui leur aidera à trouver des solutions définitives à ce problème.
Ben parfait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Abbas, vous étiez en ligne avec nous depuis Nouakchott. Merci à vous d'avoir été à l'écoute d'Appel sur l'actualité. Merci à toute l'équipe, Carole, Vanessa, Camille, Thomas, Emeric. Rendez-vous demain pour une